Les amphis d'Amicus.
Dans cette édition spéciale, les étudiants de Master 2 de l'Université Paris Panthéon-Assas prennent la parole et partagent leur regard sur des questions juridiques actuelles autour du micro d'Amicus Radio.
Aujourd'hui, Tristan Planquet nous parle de l'adaptation de la procédure pénale au phénomène terroriste. Épisode 2, adaptation de la procédure pénale avant le jugement.
Chères auditrices, chers auditeurs, dans l'épisode précédent, nous avons introduit notre sujet et lancé quelques pistes sur l'histoire de cette adaptation de la procédure pénale au phénomène terroriste. Nous entrons par cet épisode dans le vif du sujet, l'enquête et l'instruction visant à prévenir et punir les actes terroristes. Nous verrons que les actes d'investigation comme les mesures présententielles disposent d'un régime dérogatoire et que le ministère public est spécialisé afin d'accroître son efficacité. L'enquête de police judiciaire et l'instruction préparatoire sont deux étapes d'investigation préalables à la poursuite et à la répression des infractions. Elles se caractérisent, en matière de criminalité et de délinquance organisée, catégorie processuelle dont relève le terrorisme, par des pouvoirs coercitifs accrus par rapport à l'enquête et à l'instruction de droit commun. En matière terroriste, ces phases d'investigation se caractérisent par un recours à des actes d'investigation dont le degré de coercition est renforcé au stade de l'instruction, mais également en amont au stade de l'enquête de flagrance et de l'enquête préliminaire, laquelle est en principe une enquête consentie, sans coercition. Ainsi, il sera principalement question ici des crimes de terrorisme. Seront également évoquées des infractions terroristes moins graves, dites d'anticipation, qui visent à empêcher le passage à l'acte d'infractions plus graves, comme un attentat. Dès lors qu'une action terroriste vise à déstabiliser l'État, sinon à le renverser, ce dernier va réagir de manière plus forte que face à un délit mineur. Le but principal est de prévenir au maximum la commission de ces infractions. Ainsi, le terrorisme, par son caractère particulier, bénéficie d'une procédure spéciale qui se caractérise notamment par des techniques d'enquête plus contraignantes. Les mesures sont plus coercitives et plus intrusives. Il est nécessaire de distinguer les actes d'investigation et les mesures de sûreté présententielles. Les actes d'investigation consistent notamment en des perquisitions nocturnes, la géolocalisation, les techniques d'écoute, ou encore le recours à un MC catcher. Les mesures de sûreté présententielles sont quant à elles le contrôle judiciaire, la détention provisoire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique. Suivant la même logique, le parquet est spécialisé afin d'être à même d'agir de manière efficace, proportionnée et surtout en temps utile. Enfin, la nécessaire protection accrue de ses membres justifie cette spécialisation qui semble déroger à l'indivisibilité du parquet. Notre propos se concentrera donc sur ces trois particularités de la phase de préjugement en matière terroriste. Le renforcement des mesures de sûreté, l'éventail élargi de techniques d'enquête et la spécialisation du ministère public. Tout d'abord, en matière de techniques d'investigation, l'éventail est large et les mesures prises sont plus intrusives ou plus coercitives. La loi du 9 mars 2004 marque un tournant dans les mesures coercitives. Elle vient créer l'article 706-73 du Code de procédure pénale et la notion de délinquance et criminalité organisée. Elle donne lieu à des actes d'investigation dérogatoires au droit commun. Ainsi, si la création de dispositions propres à la criminalité et à la délinquance organisée pousse certains auteurs à parler de « code dans le code », les dispositions de lutte contre le terrorisme font apparaître un « code dans le code dans le code ». Les perquisitions ou encore la géolocalisation font ainsi l'objet d'un régime dérogatoire en matière de terrorisme. Si les perquisitions d'un local d'habitation sont interdites de nuit en enquête préliminaire, ce n'est plus le cas en matière de terrorisme depuis la loi du 3 juin 2016. Une telle mesure apparaît pourtant comme particulièrement intrusive. En matière d'instruction, la géolocalisation peut durer un an pour les infractions ordinaires, mais cette durée peut être étendue à deux ans, entre autres pour les crimes de terrorisme. Le professeur Yves Maillot pointe ainsi la complexité du terrorisme qui justifie une durée étendue. De même, les techniques spéciales d'enquête sont davantage renforcées en matière de crimes et de délits terroristes. Il existe trois techniques spéciales d'enquête, la captation des données informatiques, l'IMC catcher et la sonorisation et la fixation d'images. Le Conseil constitutionnel a censuré, dans sa décision du 21 mars 2019, leur extension à l'ensemble des infractions criminelles, ce qui marque une nette césure entre le terrorisme, les crimes graves et les autres crimes. Les mesures peuvent, en matière d'instruction, durer jusqu'à 2 ans, dès lors qu'elles sont renouvelées par le juge des libertés de la détention tous les 4 mois. L'une de ces techniques spéciales d'enquête est l'usage d'un MC-catcher. Ce dernier vise à intercepter toutes les communications et leur contenu dans un certain rayon. À la différence des écoutes, dites classiques, l'MC-catcher permet de prendre connaissance du contenu même des communications dans tout un périmètre. Il s'agit là d'une mesure particulièrement attentatoire au droit, ce qui justifie qu'elle soit limitée à certaines infractions. Force est de constater que les crimes terroristes ne sont toutefois pas totalement isolés. Un certain nombre de crimes graves peuvent faire l'objet des mêmes mesures. La tendance répressive actuelle tend ainsi à atténuer la séparation entre infractions terroristes et crimes, tout en maintenant une division entre les crimes justifiant des mesures similaires aux crimes terroristes et les autres crimes. En matière de mesures de sûreté présententielle et de garde à vue, le constat est similaire. Ainsi, la garde à vue, qui n'est pas une mesure de sûreté présententielle, peut durer jusqu'à 4 jours. En principe, la garde à vue ne dure que 24 heures, et les possibilités de renouvellement sont strictes et limitées. Les délits terroristes sont cependant exclus de cette prolongation de la garde à vue jusqu'à 96 heures, afin de respecter le juste équilibre exigé par le Conseil constitutionnel depuis une décision du 4 décembre 2013. Il existe des dérogations aux règles de report de l'assistance par un avocat en matière de criminalité et de délinquance organisée, et des dérogations supplémentaires existent en matière terroriste. Par exemple, en matière de terrorisme, le mineur placé en garde à vue dispose des droits habituels, droit à un avocat, examen médical s'il a moins de 16 ans. Mais ceux-ci sont adaptés. Ainsi, l'assistance de l'avocat peut être reportée de 12 heures, renouvelable une fois, pour certaines infractions. En matière de détention provisoire, les délais sont également augmentés. Ces mesures, particulièrement dures, viennent écorner la présomption d'innocence. Cette particulière sévérité est justifiée par la complexité des infractions terroristes. La lutte contre le terrorisme est nécessairement plus longue que pour d'autres infractions. Ainsi, en matière de délits terroristes commis par un majeur, la détention provisoire en instruction peut durer 6 mois et jusqu'à 2 ans et 4 mois en cas de renouvellement, contre 1 an maximum pour les autres délits. En matière criminelle également, la durée de la détention provisoire peut être de 4 ans et 8 mois au terme de prolongations soumises à des conditions strictes. La durée de droit commun de la détention provisoire ne peut, à l'inverse, dépasser 2 ans. Quant à la spécialisation du ministère public, et depuis l'adoption de 2 lois, organique et ordinaire le 23 mars 2019, il existe un parquet national anti-terroriste en France. Ce parquet dispose d'une compétence nationale et vient se substituer au ministère public près le tribunal de Paris. Le parquet national antiterroriste dispose de relais au niveau territorial, notamment par l'action de magistrats référés, de magistrats délégués à la lutte contre le terrorisme, ou encore par l'intermédiaire d'assistants spécialisés. Ainsi, les magistrats référents en matière de terrorisme sont, au sein de chaque parquet, chargés de suivre les affaires pouvant intéresser le parquet national antiterroriste. Les magistrats délégués à la lutte contre le terrorisme, créés également par la loi du 23 mars 2019, ont un rôle relativement proche. Ils sont en contact avec le parquet national antiterroriste et l'informent, notamment, sur le niveau de la menace terroriste dans leur ressort. De plus, ils suivent les personnes placées sous main de justice dans leur ressort et étant identifiées comme radicalisées. Le ministère public partage sa compétence avec le pôle de l'instruction de Paris. Tous deux peuvent en effet agir sur l'ensemble du territoire français. Le professeur Yves Maillot justifie cette concurrence en se fondant sur le rapport Limousy. Il est nécessaire d'avoir des services spécialisés et dotés de moyens importants, ce que seul un système de centralisation des poursuites est à même d'obtenir.
La décision, un roman de Karine Thuil aux éditions Folio, 2022. Mes enquêteurs apprenaient le mercredi ou le jeudi que les autorités turques nous renvoyaient des Français par un avion qui arrivait à Orly le vendredi soir à 18h. 3-4 enquêteurs plus 2-3 agents du groupe d'intervention se rendaient à l'aéroport. Ils se mettaient au niveau de la passerelle, interpellaient, vérifiaient l'identité et emmenaient les personnes arrêtées dans les locaux de la police aux frontières d'Orly, où on leur signifiait leurs droits. Ils appelaient le Valois, le siège de la DGSI, prévenaient qu'ils auraient besoin d'un avocat, d'un médecin. Les parents étaient séparés de leurs enfants. Ça, c'était le plus dur. Les agents fouillaient les effets personnels, confisquaient tout, demandaient s'il y avait des bagages en soute. Un type de la police aux frontières était envoyé avec la personne interpellée pour reconnaître et sécuriser le bagage. C'était important qu'elle soit là, sinon elle pouvait ultérieurement affirmer qu'ils avaient rajouté des choses. Puis ils retournaient dans les locaux de la PAF, mettaient les bagages sous scellés. Ça prenait 2 bonnes heures.
Pour conclure, Si la procédure pénale lors du préjugement se fonde en partie sur le droit commun, elle est largement adaptée et dérogatoire, tant par les mesures mises en œuvre que par la spécialisation de ses acteurs, dans le but de lutter efficacement contre ces infractions particulièrement graves. Je vous remercie de m'avoir écouté. Dans le prochain épisode, Aubin présentera les spécificités de la procédure pénale au stade du jugement des actes terroristes.
Cet épisode des Amphis a été produit par Amicus Radio, avec le soutien de la Fondation Panthéon Assas, qui encourage et valorise l'entrepreneuriat étudiant. Merci à la professeure Cécile Chenet et à Aubin Jupin pour leur aide précieuse dans la coordination de ce projet. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.